La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Jean-Christophe Brianchon, Boris Pinot et Grégoire Difior. Et la prise de son est assurée ce soir par Pierrick Monsigny, la réalisation signée Daniel Finot. Autour de moi, Fabienne Pascaud, René Solis, Philippe Chevillet. À notre affiche, Democracy in America de Romeo Castellucci, Le poète aveugle de Yann Lower, c'est un album de Laetitia Doche. Présente également à mes côtés, Aïssa Toundoy qui va surveiller en direct le fil Twitter Dispute FC pour donner à entendre vos commentaires sur ces spectacles que vous avez donc peut-être déjà vus. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Étrangers résidents, la collection Marine Karmitz. Exposition à découvrir jusqu'au 21 janvier à la Maison Rouge à Paris. Nous ouvrons cette dispute avec le spectacle de Romeo Castellucci, Democracy in America, présenté à la MC 93 dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Comme à son habitude, l'Italien signe la mise en scène, les décors, les costumes, les lumières, co-signe les textes du spectacle pour cette libre interprétation et dérivation, on va dire, à partir du livre d'Alexis de Tocqueville. Peut-être à nos auditrices et auditeurs de mettre le volume sonore de la radio à fond pour avoir une vague idée de l'environnement sonore toujours très, très important et très imposant dans les spectacles de Romeo Castellucci. Hein, c'est toujours Scott Gibbons qui signe les musiques et sons, on va dire, divers de ces spectacles. Encore une fois, la part sonore est très importante dans ce Democracy in America que vous avez vu deux fois, Fabienne Pascaud. Mais est-ce que c'était deux fois le même spectacle? Parce qu'il paraît que les durées varient d'un moment à un autre.
Écoutez, je ne crois pas que ça soit bien de commencer par moi, mais puisque c'est vous le faites, j'ai vu deux fois et je n'ai pas accroché deux fois. Et Dieu sait que je suis une inconditionnelle de Romeo Castellucci qui me bouleverse toujours et m'atteint au plus profond. La première fois que j'y suis allée, c'était il y a un an et demi, je pense. Le spectacle durait 2h30, c'était à Vidy-Lausanne, parce que Vincent Boudrier est toujours le coproducteur fervent de Romeo Castellucci, qu'il suit depuis Avignon. Le spectacle a été représenté après au Printemps des Comédiens, à Montpellier. Je crois que là, il durait beaucoup.
Philippe Chevillet, vous avez dit 1h15, d'après vos sources.
D'après mes sources, mais peut-être qu'elles sont
inexactes. Et là, à Bobigny, 1h50 environ.
1h50, voilà. Donc, moi j'aime beaucoup la musique que nous venons de faire entendre aux auditeurs. Je trouve qu'il y a des images d'une beauté à couper le souffle. Mais je suis un J'ai été fatiguée de ne pas comprendre ce que voulait dire Romeo Castellucci. Moi, je suis, malgré la beauté vraiment métaphysique du spectacle qui vous emmène dans un état hypnotique et de méditation, bon, so what, quoi. Donc...
Ça ne vous a pas raconté grand-chose.
Non, à moi, ça n'a pas raconté grand-chose. Ça parle, c'est très, très lointainement inspiré de Tocqueville. Ça parle de la naissance des États-Unis, ça, c'est sûr, et d'un puritanisme qui est mortifère. Ça parle de l'exploitation des Indiens, des Noirs. Tout ça, un petit peu, avec entremêlé de dates qui surgissent sur l'écran, donc qui suggèrent une histoire américaine, avec un début des majorettes qui jouent sur le terme démocratie in America, qui font jouer les lettres. Donc on découvre tous les sens possibles.
Les anagrammes, oui.
Voilà. Donc ça fait rire un peu le public qui n'aura plus beaucoup l'occasion de rire après. Voilà, donc je suis désolée, j'aurais aimé, mais vraiment non.
Très bien. Bon, bah, écoutez, deuxième son de cloche, Philippe Chevillé.
Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que... Moi, je ne suis pas un fan...
Vous avez peut-être compris, Philippe.
Alors attendez, comprendre, n'exagérons rien. Non, je suis pas tout à fait d'accord parce que, alors moi je suis pas un fidèle forcément de Castellucci. Il y a des spectacles que j'ai moins aimé, que j'ai pas aimé, Gordon Moses par exemple, où je trouve qu'on comprenait pas grand chose, même s'il y avait des images assez fortes.
Mais il y avait un mysticisme qui entraînait, enfin moi j'étais
C'est pas ce que je préfère, le mysticisme, moi, même s'il y en a beaucoup, mais dans l'absolu.
Juste pour embrouiller encore plus, moi je trouve qu'il n'y avait pas eu tout de mysticisme dans Gordon Moses, que j'ai adoré. Mais
non, voilà. Chacun comprend. Voilà, qui peut.
Alors, qui peut et qui veut.
C'est vrai que ce que je ressens, moi, de Castellucci, et pourquoi je l'aime, au bout du compte, après avoir été un peu hésitant sur certains spectacles, c'est parce qu'il y a ce flot d'images, ces associations qui sont parfois des associations presque subliminales, que peut-être lui comprend, que nous ne comprenons pas, mais on arrive à des spectacles qui nous touchent justement par le biais de cette quasi-abstraction et qui est parfois métaphysique, parfois mystique et que j'aime bien quand même, j'ai un peu exagéré. Mais là, ce que je trouve intéressant, il y a des défauts dans le spectacle, mais ce que je trouve intéressant, c'est que le propos est sur cette démocratie naissante, puritaine, religieuse, est tenu, c'est-à-dire qu'il y a une petite fable au départ qu'on comprend assez bien et ensuite, c'est vrai, on a l'impression que Castellucci tout d'un coup nous dit, bon bah ça y est, j'ai un peu raconté ce que j'avais à dire sur cette démocratie qui exclut d'un côté les Noirs et les Indiens, parce que ça, il nous raconte ça au début, et que maintenant, je peux aller passer à l'allégorie totale, et là, j'ai trouvé, alors, pour le coup, sur le plan esthétique, et ça vous le disiez, on est d'accord, que le traitement qu'il a déjà fait, d'ailleurs, derrière le filtre translucide, donne des images absolument magnifiques, avec des rameaux d'or, on assiste donc à une représentation parfois un peu violente. Il y a le sacrifice du personnage principal, de la femme qui a troqué son enfant au début de l'histoire, qu'on voit avec l'enfant, quelques références, mais après on se perd dans une abstraction totale, et à la fin, alors pour le coup, c'est quand même métaphysique, puisqu'on a cette image... je pense que ça peut être la lettre et les lettres hébreux qui disent je suis, d'ailleurs, d'après ce que j'ai pu
imaginer
et qui se tordent et qui forment ces espèces de tuyaux qui forment des j'ai trouvé ça très beau. Et du coup, je reconnais que la partie en plus du texte est parfois un petit peu laborieuse, mais néanmoins, j'ai trouvé que c'était que ça soit tout compréhensible, mais qu'il y a un propos tenu sur ce spectacle. Et du coup, j'y ai pris un plaisir peut-être plus grand de pas être sans arrêt en train d'essayer de me poser des questions sur le sens.
Alors, maintenant, René Solis, je me permettrai d'intervenir après vous.
Alors, on ne comprend pas ou on ne se comprend pas, je crois que je comprends ce que vous voulez dire, Fabienne. Et en même temps, on peut dire que il part presque de là, puisque les trois premières séquences, elles tournent autour de cette question-là. Donc la première, le ballet anagrammatique, c'est-à-dire le fait de bouger toutes les lettres.
On peut tout dire de tout.
Oui, on peut faire de tout, mais il y a juste une invitation ludique. C'est d'ailleurs, effectivement, vous l'avez relevé, je crois, à peu près le seul tableau ludique et amusant d'un spectacle qui est quand même très, très noir, il faut le dire, un peu terrible. Et là, il y a quelque chose tout d'un coup en entrée de très souriant. Donc ce ballet anagrammatique, il est drôle parce qu'effectivement dans les anagrammes de Democracy in America, on trouve qu'est-ce qu'il y a, cream, diamond, cocaïne ou des choses comme ça. Puis il y a le jeu sur crime et cream. Et puis c'est fait de façon virtuose avec ces danseuses en uniforme de gala militaire blanc.
Oui, que le spectacle ne soit fait que de femmes, c'est intéressant.
Absolument, c'est quelque chose à relever. Donc première séquence qui est en gros derrière les mots, il y a d'autres mots. Bon voilà, ça veut pas dire plus que ça, mais quand même. Deuxième séquence qui est une une séquence plutôt sonore, qui est sur la glossolalie. Et alors, la glossolalie, c'est le don de parler dans une langue inconnue et incompréhensible. C'est quelque chose qui est évidemment très lié à l'histoire du christianisme et du mysticisme chrétien. Et c'est quelque chose qui a été, qui est très utilisé encore
par les
pentecôtistes américains. Donc, ils rappellent ça. Il y a des enregistrements de glossolalie.
Archives sonores, ouais.
Donc, deuxième chose, on comprend pas cette langue qui est la langue de Dieu et qui est une langue qu'on ne comprend pas. Et la troisième chose, la troisième séquence, qui est une séquence relativement souriante aussi, quand même, c'est l'histoire de ce dialogue entre ces deux Indiens en langue ojiboué. Et ce qu'ils se disent est quand même, là aussi, quelque chose au cœur de cette histoire de qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on comprend pas, puisqu'il y en a un qui essaye d'apprendre l'anglais à l'autre, de lui traduire les mots, et l'autre, en gros, lui dit, mais ça sert à rien d'apprendre cette autre langue, puisque de toute façon, eux, c'est-à-dire les colons, leurs mots ne désignent pas les mêmes choses que les nôtres. Mmh. Et l'autre lui dit, oui, mais c'est quand même intéressant d'accroître ses connaissances. Et ce débat-là, là aussi, il est sur un mode finalement assez léger, et il est, finalement, il dit quand même beaucoup de choses. Donc déjà, les trois séquences en entrée, je trouve qu'on peut les comprendre et qu'elles disent beaucoup. Alors ensuite, il embraye sur ses obsessions. Alors il y a l'obsession sur l'Amérique, le puritanisme, sur le décalogue, et puis quelque chose au cœur de ça, dont il est revenu dans beaucoup de spectacles finalement, qui est en gros le sacrifice d'Isaac, c'est-à-dire le meurtre ou le viol du père par son fils. Et là, il y a la version abandon, qui était déjà dans Gordon Moses, qui est donc l'abandon du fils, enfin de la fille, puisque comme vous l'avez relevé, effectivement, il n'y a que des femmes, par sa mère. Et donc cette femme qui est une paysanne puritaine dans la dernière extrémité de la misère, qui abandonne son enfant. Et à partir de là, il décline effectivement tout ce côté sombre, noir du puritanisme. On n'est quand même pas si loin enfin moins loin de Tocqueville que ce qu'on pourrait croire, parce qu'il est là aussi dans quelque chose qui est aux racines de la fondation de la terre promise américaine. Et c'est de ça qu'il parle. Donc, il n'y a peut-être pas plus à comprendre finalement. Et alors, mais j'y reviendrai après. Je comprends par contre ce que vous dites par ailleurs sur la façon dont les spectateurs peuvent peut-être avoir du mal à y rentrer. Et je pense que c'est intéressant ce qui se passe, comme justement le blocage qui peut se produire à ce niveau-là.
Alors, hier après-midi, en tout cas, il y avait une salle extrêmement remplie, hein, à Rabord, à la MC93, qui est pourtant un grand paquebot. Moi, j'ai entendu une qualité d'écoute très importante et beaucoup de commentaires à la sortie de gens qui disaient ne pas avoir compris telle ou telle chose. Moi, je crois que je dois dire que j'étais tout à fait passionné par ce spectacle de Romeo Castellucci. C'est presque toujours le cas, mais pas toujours. Il y en a qui, comme ça vous est arrivé pour celui-ci, Fabienne Pascoum, je passe à côté totalement. Celui-là, il m'a parlé de la première à la dernière minute. Il m'a parlé parce que justement, c'est un spectacle qui pour moi, est centré sur la question du langage. Du langage comme moyen de communication, comme moyen de domination. C'est l'histoire des Indiens. Leurs mots pourquoi apprendre l'anglais? Puisque leurs mots ne désignent pas nos choses. Alors, l'autre lui dit, bah oui, mais c'est important d'essayer de comprendre ce que leurs mots désignent. Bon, il y a toute cette question-là de la langue du colon pour aller vite. Mais la glossolalie dont vous parlez, c'est parler à travers les langues. C'est aussi une des traductions possibles. Et il me semble que c'est vraiment ce que fait Romeo Castellucci.
Mais la langue, elle est tuée par l'image, de toute façon. Parce que l'image est tellement présente. On a l'impression de voir des Rothko beaucoup plus beaux encore que des Rothko en permanence. On n'entend plus la langue, l'image est est envahissante.
Ce que je voulais dire, c'était la langue de Castellucci comme langage. Ce n'est pas la langue au sens de l'expression orale. Je pense que Romeo Castellucci, c'est en cela qu'il est passionnant. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est qu'il mène une recherche sur le spectacle. Alors, parce que c'est vraiment la question qu'on peut se poser aussi. À quoi on assiste quand on va voir Démocratie in America? C'est pas du théâtre, c'est pas de la danse, c'est pas de la musique, mais c'est tout ça et c'est quelque chose qu'on ne voit nulle part ailleurs, ce qui n'est pas une fin en soi, c'est pas la singularité qui prime pour moi, mais c'est vraiment quelqu'un qui cherche des moyens de communiquer et ça passe par l'image, ça passe par le son. Effectivement, Roscoe, c'est quand même stupéfiant de voir sous ses yeux une expression plastique de cette qualité, mais comme le travail sur le son dont vous avez parlé aussi, Fabienne Pascoe. Moi, ça me passionne d'un bout à l'autre, et pour parler du symbole hébreu, je pense que ça doit être effectivement Yahvé qui veut dire aussi, enfin, d'une certaine façon, je suis ou je suis celui qui crée, qui renvoie à io sono dans le texte italien original, qui est comment on nomme Dieu. Dieu, c'est celui qui est, bon, je suis, dit Dieu. Donc c'est la femme reprend cette litanie en s'adressant à io sono. Et ça, c'est aussi très important. Comment on se parle? Parce qu'elle dit aussi, quand on prie, Dieu n'est jamais là. Donc il vaut mieux blasphémer peut-être pour se faire entendre. Comment se faire entendre de l'autre? Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, compris et qui m'a passionné. J'ai pas du tout toutes les réponses au spectacle, mais en tout cas, il m'amène plein de questions. Philippe Chevillé.
Oui, je pense que le travail dont on parlait, qui a fait que c'était un spectacle géométrie variable, avec peut-être des reconstructions aussi du spectacle, c'est peut-être aussi ce qui peut créer un sentiment bizarre chez le spectateur, parce qu'encore une fois, je pense que dans la première partie, notamment la fable de la femme qui vend son enfant, on la comprend bien, et du coup, on est dans une forme de théâtre, il l'a déjà fait, mais là, on a quand même du théâtre assez...
Oui, c'est la plus longue partie, je pense, du spectacle.
Assez classique, et d'ailleurs, c'est d'ailleurs le reproche que je fais, c'est que je trouve que et à la fois le dialogue avec les Indiens et à la fois la scène, la pastorale ou l'impossibilité de la prière, ça est un petit peu laborieuse dans l'écriture et dans le rythme, et que ça repart après sur les images, et que du coup les gens sont partis un petit peu sur un texte et tout d'un coup en fait sur un texte, et après ils sont happés par cette allégorie qui fait que si on se laisse pas happer par ça, et surtout si les gens cherchent une signification à tout, ils risquent d'être effectivement perdus. Voilà.
Oui, mais on est obligé de faire le rapport quand on pense au dernier film de David Lynch ou Inland Empire, ou quand on pense à la troisième saison de Twin Peaks, on est face pareillement à un créateur qui nous donne des images, du son, pas forcément du récit linéaire, mais qui stimule extrêmement notre intelligence de spectateur, Fabienne Pascot. Pas vous.
Non, moi je suis restée à côté parce que j'ai besoin d'être nourrie, d'avoir d'avoir quelques pistes, quelques repères, quelques signaux. Et là, je n'en ai pas eu assez pour me nourrir. Parce que ce que vous dites sur le langage est très intéressant intellectuellement ou quand vous l'évoquez. Mais d'abord, c'est pas 9-9. Hein. Bon, c'est bien,
non,
mais
non.
C'est une interrogation récurrente chez plein d'auteurs depuis des siècles. Donc Castellucci n'apporte rien là-dessus. Moi, il m'intéresse plus quand il fouille la tragédie, quand il s'intéresse à la naissance du tragique, à la naissance du mal, à la naissance du péché. Là, je trouve que ce qu'il raconte, même sur la glossolalie, tout ça, c'est relativement banal. C'est pas les choses qui, moi, me piquent ma curiosité. Mmh. Donc voilà. Et puis alors, pourquoi que des femmes? Pourquoi que des femmes? Est-ce que c'est pas, peut-être misogynie?
Ah, ça y est,
vous n'allez pas nous faire le coup.
Oui, c'est intéressant, Fabienne. Mais je réfléchissais en même temps que vous y parlez. Pourquoi c'est toujours des femmes qui sacrifient? Ah ben non, dans ces précédents spectacles, il y avait aussi des hommes qui sacrifiaient les enfants. Mais pourquoi là que des femmes?
Alors, une réponse, Issa Tundel, sur Twitter?
Peut-être une réponse de Hiver Suédois qui pointe que les États-Unis sont une jeune démocratie qui a exclu les Noirs, les Indiens et également les femmes, puisque leur droit de vote intervient que très tardivement. Donc ça pourrait être une explication.
Des exclus, pourquoi pas?
Ah oui, une autre forme d'exclus, c'est très bien.
Bon, voilà une réponse. Vous aviez d'autres commentaires à Issa Tundel à faire partager, puis avant de réentendre René Solis.
Oui, Violette Villard était très loquace sur Facebook.
Vous avez fait un montage, hein?
Ah oui, je la cite. C'est un théâtre qui n'est plus forcément sensoriel ni incarné, mais profondément hermétique et désossé, que l'on retrouve dans Démocratie in America. Un théâtre des limites, une proposition radicale, peu admise s'il ne s'agissait de Romeo Castellucci, selon elle. Elle ajoute que le metteur en scène revient aux origines de la langue, de l'ombre, de la géométrie des sensations, de ce que représenter et apparaître constitue. Il réfléchit sur ce que toute image implique à sa genèse, selon elle, un simple blasphème. Violette Villard pointe également que le théâtre des glandes, du sang et de la tragédie qui était les créations de Romeo Castellucci ne demeure ici qu'un psaume conceptuel radical, hermétique et inanimé, parlant et statique, comme essoré de sa semence imaginative, une réflexion symboliste et philologique sur l'abîme de la représentation.
Bon, elle n'est pas si loin que ça de Fabienne Pascot, directement. Hein,
pour, mais elle aime
pour
quand
partie.
Même. Hein.
Elle aime, mais avec les réserves, très bien énoncées. René Solis.
Oui, alors, non, cette question de ce que l'auditrice Violette Villard donc appelle l'hermétisme de la chose. Moi, je crois que je peux comprendre un peu. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai ressenti à un certain moment par rapport, en pensant à d'autres spectacles de Castellucci, parmi les spectacles que j'ai trouvé les plus beaux, qui serait quoi, Purgatorio, l'histoire du viol du fils par son père, et puis sous le Concetto nel volto di figlio di Dio, qui est quand même là aussi un spectacle
magnifique,
incroyable. Et ces deux spectacles là sont des spectacles qui sont par ailleurs extrêmement inclusif pour les spectateurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent se projeter dedans. On est avec le petit garçon dans le placard, terrifié. En même temps, on lui tient la main. C'est très beau, d'ailleurs, à cause de ça. C'est-à-dire, cette violence, elle est prise en charge aussi par les spectateurs, et les spectateurs ont une place là-dedans. Ils peuvent s'identifier à la mère qui est totalement mutique, même au père monstrueux d'une certaine façon. Sur le sul concetto nel volto di figlio di Dio, pareil, on peut s'identifier au père grabataire, au fils évidemment, mais aussi au Christ qui regarde. On peut penser qu'il est on peut lui prêter tous les sentiments, les enfants, etc. Donc il y a un mouvement de projection des spectateurs sur la scène et de prise en charge d'une certaine façon de ce qui est dit. Et là, on a, et c'est peut-être une des limites, quelque chose qui est plus formaliste, en tout cas, qui apparaît comme ça, et plus hermétique, effectivement. Et moi, je comprends très bien que des gens aient l'impression de pas entrer dedans. Voilà, c'est tout. Ça reste, par ailleurs, remarquable, et surtout, évidemment, comme toujours, remarquablement pensé. C'est-à-dire, c'est tout. Mais ça, on est tous d'accord, que sauf des images gratuites, évidemment, il sait très bien. Et il a lu Tocqueville, et il l'a lu très bien, en fait.
Philippe Lebillet, pour finir.
Juste, je pense qu'Castellucci va vers les purs, et que ces images, pour moi, elles ne sont pas du tout désincarnées. C'est-à-dire que moi, je reçois une joie sensuelle à les regarder. Elles sont très belles. Il y a l'esthétique des images. Et par ailleurs, sur la première partie, proposition radicale, oui et non, parce que, encore une fois, on est dans une fable qui est assez explicite et dans des codes de théâtre qui sont assez classiques au départ. Donc,
Il y a du théâtre.
Dans cette
pas
partie-là.
Beaucoup, quand même.
Avec Nathanaël et Elisabeth.
La pastorale, je ne sais pas si vous comme ça.
Mais c'est
l'Angélus de Millet.
C'est plutôt American Gothic.
Il y a un suspense parce qu'on a vu la scène. Oui. Peut-être pas dans la première version, mais dans la version qu'on voit là maintenant, on voit dans la scène la femme qui vend son enfant et puis après elle ne le dit pas encore à son mari. Il y a un véritable suspense. Je raconte trop encore.
Non, mais là pour Castellucci, ce n'est pas trop grave.
C'est pas trop grave.
Vous êtes excusé. Bon, en tout cas, ça nous fait parler, ça nous fait penser. Vous avez autre chose? Non, et ça tout.
Non, une petite remarque de Stéphane Fugier, Démocratie in America, ou comment transformer de l'or en plomb en étirant toutes les séquences. C'est son plan de vue.
Ça, c'est un ami de Fabienne Pascaud.
J'en ai quelques-uns. Hein.
J'imagine, malgré tout. Démocratie in America de Romeo Castellucci est présenté jusqu'au 22 octobre à la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, MC 93 à Bobigny. C'est dans le cadre du Festival d'automne.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée ce soir au spectacle vivant avec un autre auteur complet, le flamand Yann Lauwers, qui signe texte, mise en scène et image du spectacle Le Poète Aveugle, présenté au Théâtre de la Colline. Un spectacle que je n'ai pas encore vu, donc je vais vous écouter très intéressé. Ce que j'ai lu, c'est que le poète aveugle du titre, c'est le Syrien Abu Alala al-Mahari, qui a vécu au 10e et 11e siècle, et que les écrits d'une poétesse andalouse du 11e siècle, Walada bint al-Mustaqfi, sont également à la naissance de ce spectacle qui interroge, ai-je lu, la notion d'identité dans l'Europe multiculturelle.
So, photos for need company, Sina. Sit, leg. Ah ja, dit zijn de Chinese kinderen die voeren vissen met een papfles. I always wanted to do that. I always wanted to feed fish with a baby bottle.
Mais Grace, c'est les photos de Chine, ça?
Yeah.
Mais c'est des photos qu'on a prises en Chine, t'étais pas en Chine avec nous. T'as jamais été en Chine, toi. Regarde, t'es même pas sur les photos, d'ailleurs.
Mais c'est parce que j'ai pris les photos, Benoît.
Grace, on a été jouer Isabella, là. Tout le monde sait que tu ne joues pas dans Isabella.
Non, c'est Vivian de Munch. Vivian de Munch joue Isabella.
Ah.
Vivian de Munch. Vivian de Munch. Je suis Vivian de Munch. Je suis Isabella. Je suis tout le monde. Tout le monde, et toujours tout le monde. I am a multicultural wonder. I am Grace Ellen Barkey, multiculturality. Grace Ellen Barkey, multiculturality.
It's true, Grace, it's true. You are maybe a multicultural wonder, but I am the purest monoculture, huh? I am Mohammed, the monocultural wonder. Pure blood in my Muslim veins. feel it. ولم أرى في جلاس الناس خيرا فمن لي بالنوافر إن كنسنا نشكو الزمن وما أتى بجناية ولو استطاع تكلما لشكانا
Voilà pour cet extrait qui nous a fait entendre quelques-unes des langues qu'on entend dans le spectacle, puisque c'est un spectacle lige dans le programme, en anglais, arabe, flamand, français, norvégien et tunisien. René Solis, pour commencer sur ce spectacle de Jan Lauwers, qui, je l'entends, parle de lui-même, de ses autres créations, qui parle de ses interprètes, qui accueille d'autres venus d'autres horizons.
Alors oui, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il y a l'allusion à... spectacle un peu mythique de la Need Company, la chambre d'Isabella. C'est un spectacle qui date de 2004, si je me souviens bien. Et on peut dire que on est un peu dans les ruines hein, de la chambre d'Isabella. C'est-à-dire que on voit bien comment il continue un certain nombre de recettes, de choses essayées dans la chambre d'Isabella. Et c'est pas quand je dis les ruines, il y a des belles ruines. Donc il reste des
là,
choses.
Là vous avez dit recettes après. Là,
oui,
ça m'inquiète
j'ai
plus.
Des recettes parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'épuiser. Rappelez quand même que Jan Lauwers c'est pas n'importe qui, que ça correspond quand même à un grand moment de l'histoire du théâtre et de la danse en Belgique, un mouvement qui est en particulier qui a grandi dans les années 80-90 à Gand. Jan Lauwers, il a fréquenté l'école des Beaux-Arts de Gand. À Gand, il y a eu plein de créateurs et d'artistes qui étaient à la frontière entre le théâtre, la danse. Il y a eu Alain Platel qui vient de là. Il y en a qu'on connaît moins, mais il y a Arne Sirens. Enfin bon, il y a eu un mouvement qui a été esthétiquement, on peut dire politiquement important et qui a été...
Qui a nourri beaucoup de créateurs.
Beaucoup de créateurs et qui est celui d'un théâtre, on va dire d'un théâtre complètement ouvert à d'autres choses, en particulier la danse, donc souvent à cheval sur le théâtre et danse, et théâtre biographique, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il s'agit de reconstituer des histoires de gens, et c'est aussi un théâtre qui populaire, si on veut, c'est-à-dire qui raconte des histoires du quotidien, de gens rencontrés, et aussi souvent à partir des histoires des propres acteurs de la troupe. Jan Lauwers a déjà fait après la chambre d'Isabella d'autres spectacles où il repartait et il remettait en jeu les biographies, les souvenirs de ses comédiens, etc. Et là, il recommence et il commence avec le personnage qui est celui de sa compagne Grace Ellen Barker et de ses origines qui sont effectivement tout à fait mélangées puisqu'elle vient d'Indonésie, il y a de la Chine, il y a de l'Allemagne. Bon, et donc avec ça, et c'est le début de spectacle et c'est plutôt pas mal, commence une espèce de un parcours labyrinthique où chacun à tour de rôle des interprètes du spectacle prend la parole et remonte à ses origines, et ça remonte assez vite loin puisque en gros on remonte aux croisades, donc il y en a qui ont fait les croisades, dont les ancêtres ont fait les croisades, puis d'autres qui étaient dont les ancêtres étaient à Cordoue au moment de l'apogée de la domination musulmane et de ce moment de l'âge d'or de la civilisation musulmane, présenté, ce qui n'est pas très nouveau là non plus, comme le degré ultime du raffinement de la civilisation, quelque chose comme ça. Et sauf que cette tentative comme ça de remonter, d'embrasser toute l'histoire de l'Europe, des rapports entre l'islam et la chrétienté, revenir aux croisades, etc., qui est un projet évidemment très ambitieux, il souffre, et au fur et à mesure que le spectacle avance, d'une sorte de il se rétrécit, se rabougrit, c'est-à-dire que plus on avance, plus on a le sentiment que on retombe dans l'anecdote. Il part de l'anecdote, il essaye de monter plus haut, et il retombe dedans. Et du coup, le ton même, le fond du spectacle apparaît de plus en plus vide, et on a l'impression qu'il tourne en rond, qu'effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre des ruines. Et quand on pense, en plus, à ce que peut faire avec cette idée de théâtre biographique des gens comme Milo Rao, par exemple, tout d'un coup, ce théâtre de Jan Lauwers, il prend un coup de vue absolument terrible. Et c'est encore plus flagrant dans la deuxième partie, qui commence sur deux monologues absolument que j'ai trouvé moi un peu terrible, parce qu'on y croit alors plus du tout une seconde, et on sait pas, alors que ce soit de l'autofiction ou des vraies biographies, mais de deux acteurs qui racontent l'histoire de leur mère, qui était l'une prostituée aux États-Unis, l'autre prostituée à Liège, et on s'en fiche, c'est-à-dire de plus en plus on s'en fiche, et le spectacle se terminant par l'image d'une pieuvre dégonflée, et c'est une image très exactement métaphorique de l'ensemble de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire c'est un spectacle qui se dégonfle complètement.
Aïe, 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 aïe. Philippe Chevillier sur Jan Lauwers et ce nouveau spectacle, Le Poète Aveugle.
Alors moi j'étais sur un verre à moitié vide, un verre à moitié plein, donc je vais le faire plutôt pour commencer.
Côté plein.
Ouais, le côté plein. Non, moi je pense que le côté anecdotique, oui, c'est je pense qu'il le maintient jusqu'au bout parce que en fait c'est justement la petite histoire contre la grande histoire. Je pense qu'il veut pas l'atteindre la grande histoire, qu'il veut rester dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a je vais quand même dire ma première sensation, ça a été de me dire je suis un peu dans un spectacle d'avant-garde des années 70, côté un peu MJC. Bon, et j'ai eu très très peur au début. Et puis on est quand même pris parce qu'il y a cette mécanique, ce mélange dont vous parlez, pluridisciplinaire, et cette capacité, malgré des lourdeurs dans le spectacle, à faire des images maintenant, parfois qui sont très belles. Il y a une image avec un cheval qui paraît mort et qui est animé, qui est vraiment, moi, j'ai trouvé très belle, et qui évoque un peu le temps des croisades, etc. On a juste avant la pause un ballet, presque sur le plateau, presque vide, avec les musiques qui sont pas mal, et une lumière qui est claire. On a comme ça quelques images fulgurantes, et des moments de texte qui sont plutôt pas mal, notamment, Là vient le problème du spectacle, c'est que les performances, puisqu'on assiste à 8 performances, sont très inégales, et inégales parfois au sein d'une même performance. Donc, par exemple, oui, Grace Ellen Barclay, au départ, bon, c'est une catastrophe, et puis la fin de sa performance est plutôt bien. Et donc moi, j'ai trouvé que le projet de vouloir parler de cette identité européenne métissée de cette façon un peu bordélique, on peut prononcer le mot maintenant sans problème,
hein. Ouais.
et avec quelques images comme ça fulgurantes, la musique, par moments, j'ai été quand même emporté par le spectacle. Et dans une deuxième partie, et c'est là que finalement, je pense que ce qui permet de sauver un peu le spectacle à la fin justement de ces moments qui retombent, il y a ce danseur tunisien, Mohamed Toukabri, que j'ai trouvé vraiment... D'ailleurs, il n'a pas seulement qu'une performance, parce qu'il parle quasiment tout le temps. Il a bien compris, Jan Lauwers, que ça lui donnait un peu un coup de jeune au spectacle et que ça le portait vers autre chose. Mais par moments, c'est vrai qu'on se dit, ça fait un peu... bon, voilà, c'est la troupe telle qu'on l'a connue. Elle a pris un coup de vieux, ça, je suis d'accord. Mais j'ai eu quand même des moments où je me suis dit, ce théâtre des années 70, finalement, avec sa liberté, avec ses lourdeurs parfois, mais avec son énergie, bah, ça fonctionne encore. Ça m'a procuré des émotions, presque malgré moi, par moments. Et du coup, j'ai passé finalement une représentation assez agréable.
Bon, Fabienne Pascaux, je sens que c'est pas votre soir.
Ah non, moi c'est pas mon soir ce soir.
Je
non,
sens, j'ai trouvé je crains ça... pour Laetitia
Doche. Oui. Enfin, bon. Oh là 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 là. Bon.
Pour l'instant, restons-en à Jan Lauwers.
Voilà, j'ai trouvé ça pitoyable.
Quoi. Ah oui, carrément.
Pitoyable, ça m'a fait de la peine.
Vous êtes sûr qu'il vous reste même... des amis quand même.
Mais m'en fous, allez. même si le grand magique circus ressuscité avec Jérôme Savary, je pense que ça aurait plus de panache. Que cette espèce de défilé de ringards pour la plupart vieillissant vieux baba dont aucune performance n'est bien faite jusqu'au bout, il joue un peu de musique, mais bon, il jouasse sur scène aussi, c'est pas de la performance, il y a un ou deux danseurs qui sont excellents, ça c'est sûr, mais tout ça, c'est dans l'à peu près et c'est dépassé. C'est, on va plus au théâtre pour ça. Moi, j'ai pensé sans arrêt aux années 70, mais dans ce qu'elles avaient de plus démagogue et de moins parfaite. De, vous parliez de théâtre d'image, mais alors quand on compare à celle de Castellucci, non, alors bon, là, on meurt.
Je n'ai
meurt.
Pas fait comparaison avec ouais, Castellucci.
Ah oui, parce que ce théâtre d'image là, c'est quand même d'une pauvreté accablante. Et puis alors le propos, moi, j'ai eu la bêtise de lire le dossier de presse avant que le spectacle commence. On ne devrait jamais faire ça parce que
non, c'est vrai.
On ne voit pas.
Qu'est-ce qui vous a pris, Fabienne? Oui. Vous étiez en avance c'est... pour une fois.
Oui, j'étais en avance. C'est tellement ambitieux ce qu'il raconte. Il raconte même dans le dossier de presse que l'islam n'est pas du tout ce qu'on croit, que pendant cette période d'âge d'or qu'évoquait René tout à l'heure, eh bien certaines femmes musulmanes brillantes et cultivées étaient totalement légales des hommes, qu'elles étaient jalousées par les chrétiennes qui étaient bien moins libres qu'elles. Tout ça à Cordoue. Donc il nous fait saliver, on se dit il va nous révéler des tas de choses, ça c'est totalement oublié dans le spectacle, et même le côté les origines diverses de tout un chacun, je représente le monde, je suis le monde. Encore une fois, so what, quoi. Je suis désolée, je dis deux fois la même chose, mais j'ai eu la même, pas du tout la même, parce qu'au moins Castellucci, il y a une perfection, et on sent qu'il y a un propos où on rentre dedans ou pas, mais là, il n'y a vraiment pas grand-chose.
Vous êtes réduit à utiliser l'anglais, en effet, Fabienne
ouais.
Pascoe.
Ouais,
je
ouais,
m'inquiète.
Vraiment pas grand-chose. Mais... Je ne comprends même pas qu'on programme des choses comme ça, parce que ça tourne avant.
Oui.
Donc, ils ont eu l'occasion de le voir. Pourquoi nous montrer ça?
Parce que c'est Yann Lauer, c'est qu'on...
C'est les hasards des coproductions. C'est parce qu'après, on va dans le théâtre qui...
Ça, non, c'est mais une autre c'est... question. On peut en parler de cela. On refera un petit salon un de ces jours. Le Silcomo va pas tarder à nous retrouver. On sera très heureux de la retrouver, d'ailleurs. Mais... Moi, j'évoquais, n'ayant lu que le programme pour le coup, et pas vu le spectacle, je suis pas sûr de m'y précipiter après vous avoir écouté, pardon, mais ce poète syrien, cette poétesse andalouse, ils ont une place dans le spectacle, oui, parce que moi j'ai vu des très belles citations
si,
dans le dossier de presse.
Un peu le
Philippe
poète,
Chevillier. Il y a quand même un long passage en arabe.
Mais pas elle.
Elle très
la
peu, elle est évoquée à un moment donné.
Parce que les quelques extraits dans le dossier de presse sont, voilà, donnent envie d'en lire plus, d'en entendre plus.
Moi je trouve ça un peu dur quand même, vieux ringard, sauf pas exagérer. Y a quand
jeune
même...
ringard, il y en a aussi des jeunes.
Oui.
Oui, moi je trouve qu'il y a quand même un... d'abord, il y a le propos lui-même, et je le trouve, il reprend des thèmes qu'il a déjà repris, ou des démarches qu'il a déjà repris, mais creuser l'identité à travers des performances de la généalogie, c'est pas idiot, pour peu que, effectivement,
que
les performances soient tenues. Donc c'est très très brouillon et inégal. Je suis pas d'accord sur la musique, parce que la musique, elle est franchement pas mal, elle est pas si mal jouée que ça. Et je pense qu'il y a encore une fois, il y a quelques moments qui illuminent le spectacle et je ne le trouve pas complètement à acheter. Parce que moi, vraiment, j'étais parti au départ dans les 5 premières minutes à me dire « oulala ». Et j'ai été rattrapé au moins 3-4 fois dans le spectacle. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose, alors soit qui reste, soit qui a été inventé, soit de la fraîcheur. Je pense encore à, je recite le jeune danseur tunisien qui dit pas forcément des choses extraordinaires, mais qui a un charisme, une présence. Et alors, qui a son père costumier, hein, c'est lui qui a fait le costume. Comment il s'appelle?
Ah bah, dites son nom si vous voulez. Le costumier.
Bon, on va dire Bachir El Toukabri, je dis pas tout son nom.
D'accord.
Non, et donc. Moi, j'ai pas trouvé ce spectacle génial, mais je pense qu'il y a encore, que dans les ruines, comme il disait, quelques lumières.
René Solis.
Oui, il y a effectivement les pas de danse de Mohamed Toukabri, qui est magnifique quand il danse.
Oui, c'est un magnifique danseur.
Et ce qui reste de la danse est, par exemple, très beau, ça c'est vrai. Sinon, oui, non, je suis plutôt d'accord. On est plutôt d'accord, Fabienne.
Oui, on est tout à fait d'accord.
Bon. Et les textes, non, parce que Philippe disait qu'il y avait parfois quand même des choses plutôt
réussies. Mais on les entend pas bien, et autant c'est un formidable danseur, autant la façon de dire les textes est pas si convaincante. Non, c'est vraiment, c'est un peu pénible, j'ai trouvé ça un peu pénible, oui.
Bon. Anna-Sophia Bonema, je crois qu'elle a un beau passage juste avant la pause, qui m'a plu.
Voilà. Bon. Nous finirons sur cette note positive de Philippe Chevillier, qui a surtout travaillé le verre à moitié plein là, dans son intervention ce soir, et on le remercie pour ce spectacle Le Poète Aveugle de Yann Lauwers, qui est présenté jusqu'au 22 octobre au Théâtre de la Colline à Paris. Après, ce sera des dates à Madrid, mais alors pour celles et ceux qui ne connaîtrait pas la chambre d'Isabella, elle sera donnée au Grand Théâtre National Wallonie-Bruxelles en Belgique, donc du 9 au 11 novembre, puisque ça tourne encore ce spectacle, et que lui, c'est pas une ruine, c'est une pièce de musée, ce serait presque le cas de le dire.
Un meeting, mais peut-être légèrement surfait, mais...
Oh, moi, je l'avais revu que pas mal d'années plus tard et je trouvais que c'était quand même toujours un très beau spectacle. Mais ça fait déjà, là aussi, quelques années que je ne l'ai pas vu. Bon, voilà pour Ian Lowers ce soir.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le troisième... So what de Fabienne Pascaud ce soir.
Je ne dirai plus, promis.
Ce sera, non, parce que sinon, qu'on vous écrive directement à Télérama pour se plaindre sur l'usage de la langue anglaise. Le spectacle s'appelle Un album. Il est écrit et interprété par Laetitia Doche qui co-signe la mise en scène avec Yuval Rosman. Décidément, ce soir, nous avons les auteurs, metteurs en scène et ici même interprètes. Galerie de portraits pour Laetitia Doche qui a, nous dit-on, sillonné la France en partant de Suisse, pour que la Suisse, on y vient, en écho à l'album de Zouk, une figure, il est vrai, fascinante du seul en scène, on va dire ça comme ça, même si à l'époque on ne le disait pas, qui a décidément inspiré beaucoup d'artistes, beaucoup d'autres artistes. Laetitia Doche qui présente, on va dire, 80 et quelques fragments de personnes.
Je connais un peu les films, les poèmes de Mallarmé, c'est très très beau. Aucun jeu de dés n'abolit le hasard. Moi, je suis quelqu'un avec pas beaucoup d'espoir parce que je sais pas aimer. J'ai l'impression que l'amour, ça n'existe pas. C'est un truc encore inventé par le système capitaliste, qu'on n'est pas à se poser de questions, voilà, qu'on est juste à perpétuer la race et c'est tout. J'ai l'impression que l'amour, ça n'existe pas. L'amour, c'est un construit social. Mais j'aime bien faire des films, alors ça va.
Excuse-moi. Vas-y pas. Vas-y comme ça. Vas-y comme ça. Vas-y pas. Vas-y ici. Vas-y pas. Viens. Je crois qu'elle a pas compris, je crois. L'amour, elle a pas compris. Tu te rends pas compte, c'est pas contre toi, hein. C'est pas contre toi. Tu vois qu'elle se rend pas compte, quoi. Le personnage, il est pas... Il y a pas d'amour, là, tu vois. Viens, l'affrontement, c'est aussi doux. Là, on sent pas la douceur. On sent pas la douceur. Non, mais c'est pas contre toi. C'est pas contre toi. On sent pas la douceur. Toi, je joue avec elle, et ben, je ressens pas l'amour. Il y a pas d'amour. Je ressens pas d'amour. Il y a pas d'amour.
Jouis ! Jouis ! Regarde-toi dans mes yeux, tu vas te trouver sublime.
Voilà pour cet extrait d'un album de Laetitia Doche. Bien, une seule interprète, hein, vous qui nous écoutez à la radio, forcément, vous entendez plusieurs voix, mais non, c'est la même, c'est Laetitia Doche. Philippe Chevillier, c'est vous qui commencez.
Eh bien, moi, j'ai pas été emballé par le spectacle. Cet album de 80 personnages inspiré de Zouk, en plus la référence est immense, je trouve que ça... Ça manque de rythme. Les textes sont pas assez incisifs. Alors c'est des textes du quotidien puisqu'on ne doit pas être effectivement dans un sketch avec où on fait rire. C'est bien le principe. C'est des personnages qu'elle a shippés au passage, qu'elle interprète. Mais à la longue, je trouve que les fragments qui sont saisis sont pas toujours follement pertinents et qu'on reste finalement entre deux eaux, voire plusieurs, c'est-à-dire on a un côté docu qu'elle revendique, documentaire, il y a un côté quand même sketch, parce qu'il y a des moments où c'est quand même fait pour rire, qu'on le veuille ou non, et puis des moments où on est plus dans le grinçant, dans le tragique. Je pense que l'ouverture, il y a une ouverture qui est faite avec où elle fait une voyante, où elle est absolument incroyable dans sa façon de l'interpréter, et la voyante fait des prédictions apocalyptiques en amont, qui vont se révéler vrais sur les attentats, et justement ce texte-là, au bout d'un certain temps, on se dit mais qu'est-ce que ça veut nous raconter exactement sur le personnage, sur les voyants, sur la... Je trouve qu'il est pas bien placé ce personnage. Alors, il y a des scènes que je trouve même assez convenues, la mère et la fille à l'hôpital, la fille s'occupe de sa mère qui est grabataire, etc. Je trouve que c'est bon. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu ça déjà. Alors, je reconnais pour le coup que c'est une actrice formidable, qui a des moments assez géniaux. Je pense que la scène qu'on a entendue, qui est en fait qui est une scène de sexe, c'est assez redoutable, mais c'est franchement bien fait. Il y a des petits éclairs comme ça quand elle fait à la discothèque, c'est-à-dire toutes les danses que les gens peuvent danser, c'est absolument virtuose. La petite fille, le sport, c'est souvent dans les passages les plus longs, les castings, que ça commence bien et puis ça se perd un petit peu. J'aime bien aussi la façon dont elle change de personnage à vue. Il y a pas de noir. Elle change d'expression. Elle se repose sur scène. Ça, c'est plutôt assez beau. Voilà. J'ai pas problème d'écriture, de mise en scène. Je sais pas très bien, mais j'ai pas été assez dérangé, pas assez bouleversé par une actrice qui me paraît avoir un potentiel incroyable. Donc c'est peut-être le spectacle, moi j'ai pas vu les autres, c'est peut-être le spectacle qui m'a pas convaincu et que les autres sont formidables, j'en sais rien.
Fahim Pasco, la passe de 3.
Oui, pas terrible. Moi, j'étais assez émoustillée parce que quand j'ai vu qu'elle avait un de ses spectacles qui s'appelait Laetitia fait péter, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça va être? En plus, dans ce spectacle-là, elle faisait pipi sur scène, paraît-il, se roulait dans son pipi et puis s'essuyait juste un peu les joues pour aller embrasser les spectateurs. Enfin, je me suis dit, je vais avoir...
Vous aviez envie de ça, Fabienne.
Voilà, j'avais envie de ça. J'avais envie d'être choquée, tourmentée. Et là... Pas du tout. On arrive dans la salle, elle est déjà sur scène, Laetitia Deutsch, sur un petit carré, un petit tapis rose avec un fauteuil grand siècle sur lequel elle se promène. Elle invective, non, elle invective pas du tout. Elle parle très gentiment aux spectateurs. C'est une jolie blonde avec des longs cheveux qui a l'air très BCBG, bien élevée. Et puis voilà, c'est l'impression que j'ai eue pendant tout le spectacle où je n'ai absolument pas ri une seconde. Les allusions, alors je me souviens, je l'avais vue au cinéma dans la bataille de Solferino, elle était formidable. Et là, elle avait une énergie, une insolence, une vitalité, elle faisait un numéro exceptionnel. Mais là, moi, j'étais en quête de ce numéro et je trouvais que elle dit tout de la même façon, ces personnages, ces 80 personnages. Je trouve qu'il s'enchaîne assez platement. La référence à Zouk, elle est quand même gratinée parce que Zouk était d'une méchanceté. Elle imposait un personnage physiquement. Elle avait une gueule. Elle jouait de son visage. Là, alors effectivement, quand elle danse, je crois qu'elle a fait beaucoup de danse. Elle est assez virtuose. Mais sinon, je me demande ce que ce spectacle-là fait au Théâtre du Rond-Point, quoi. J'ai pas bien compris.
Bah, il a fait un grand succès depuis qu'il a été créé l'an dernier. Il a été joué dans beaucoup d'endroits. Et voilà.
Personne ne riait, moi, le soir où
non,
j'étais.
Mais est-ce que c'est fait pour rire?
Bah, c'est fait pour quoi, alors?
Pour donner un portrait de la France aujourd'hui. Non, je cite un peu ce que dit Laetitia Deutsch dans les interviews, c'est-à-dire c'est de faire un portrait à travers différents personnages. Je n'ai pas encore exprimé mon sentiment.
La France d'aujourd'hui, elle est quand même un peu plus intéressante que les personnages, les archétypes qu'elle nous balance en quelques secondes.
Non, hein. je répondais à vos questions. Que d'accord. Ça fait au rond-point, ça marche, donc ça va au rond-point. Ça fonctionne aussi comme ça, parfois, le rond-point, avec des choix de choses. C'est pas parce que ça marche au rond-point, sinon il y aurait des choses très diverses et variées. Mais moi, je suis pour que, et c'est pour ça que j'aime ce théâtre, toute forme, toute sorte de théâtre et de spectacle, d'ailleurs, y ont leur entrée, donc ça, c'est très bien. Il y a Laetitia Deutsch, et en même temps, il y a quoi dans les autres salles du rond-point en ce moment? Je ne sais plus exactement.
Gala,
c'est fini, peut-être Jérôme
Bell,
encore quelques jours.
Non, ça joue jusqu'au 15 octobre.
Et encore tout à fait autre chose. Bon, Gala... C'est génial. René Solis, sur un album de Laetitia Deutsch.
Eh bien moi, vous me donnez envie de la défendre.
Allez, le verre à moitié plein, cette fois-ci c'est à vous.
Allez, on se dispute,
peut-être,
c'est bien.
Peut-être plus que ce que je pensais au départ. Mais non, d'abord, je trouve qu'elle s'aventure en terrain très difficile, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, il y a l'ombre un peu trop revendiquée, écrasante de Zouk, et là-dessus...
Ça, personne n'y obligeait.
L'inspiration, elle l'a découverte, elle l'a été saisie, ce qui est normal.
Mais
hein.
Elle est quand même en perpétuel équilibre, déséquilibre, donc elle passe... d'un personnage à l'autre, on l'a dit, il y en a 80. Je suis pas du tout d'accord sur le fait que tout ça est monocorde, absolument pas. Je suis quand même assez bluffé par la façon qu'elle a d'en changer effectivement à vue, mais même pratiquement d'une réplique à l'autre. C'est-à-dire que la même scène, on ne sait plus à certains moments, et ça c'est vraiment très bien, qui parle, si elle a déjà changé de personnage, s'il y en a un qui revient, et donc il y a quelque chose de vertigineux qui fonctionne.
Comme tous les personnages se ressemblent.
Pas du tout, ils se ressemblent pas. Il y a... Moi, il y a des scènes qui m'ont fait beaucoup rire. Alors, c'est tout bête, hein, c'est de peut être de l'ordre du sketch, mais les flageolets dans le train au téléphone, donc
phrase mystérieuse de René Solis.
Elle parle au téléphone et donc attends, je suis dans le train, je peux pas te parler. Des flageolets et donc ouais. On comprend que il y a dans le frigo une boîte de flageolets pour donner à manger à l'enfant, suppose-t-on, et que l'autre comprend pas et donc il y a le train et les flageolets et c'est 30 secondes que je trouve moi parfaites, magnifiques, formidables, qui moi m'ont fait beaucoup
non, mais
rire.
On rit pas des mêmes choses.
Ça dépend. Et donc il y a
elle
des moments
avoir du pipi sur elle.
Il y a, des moments où j'ai beaucoup ri. Là où effectivement je suis un peu plus réservé, c'est sur la c'est très difficile et il manque. Il y a quelque chose qui manque qui est de l'ordre de la folie et de la folie du corps aussi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui reste sage et que du coup on décolle pas vraiment. Donc elle est comme si, elle est en train de chercher. Moi, j'ai plutôt vu ça comme ça. Elle est en train de chercher. Elle trouve des choses et elle est sur un registre qui est très très compliqué, qui est un registre à la fois humoristique et totalement désespéré ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a quelque chose qui est rattrapé par une gravité, et donc. Cheminer là-dessus, je trouve que par rapport à une grande partie des comiques, je trouve que voilà, elle choisit vraiment pas la facilité. Et moi, j'étais content de voir ça. Puis je trouve pas que ce soit une jolie blonde de BCBG, pas du tout.
Non, elle n'est pas du tout
un corps comme ça.
Non, mais je pense que la description est assez fantaisiste.
Mais j'ai pas du tout vu ça. Absolument pas. Elle est pas.
Et donc, une jeune femme d'aujourd'hui.
Alors oui, les mythologies, mais faire ça de façon en quelques secondes, juste pointer quelque chose, sans jamais installer un personnage, ne pas faire de sketch et en même temps se nourrir de choses vues. Je trouve que voilà, elle c'est
du
boulot.
Que c'est quand même d'une rare fadeur.
Non, je trouve pas. Je trouve que ça mérite voilà l'attention et en tout cas moi j'étais content de voir ça.
Alors juste point information, Laetitia Dodge, je vous la retrouverai à l'affiche Jeune Femme, le premier film de Léonore Serrail qui a eu la caméra d'or à Cannes. Le film sort le 1er novembre, donc j'imagine que vous verrez, elle est plutôt en jolie blonde là sur l'affiche, mais peut-être moins dans le spectacle. Moi j'étais, j'en attendais peut-être un peu trop. J'aurais dû y aller en méthode passe-cour, en attendant rien. Et du coup j'étais un peu déçu, j'avoue, par quelque chose qui ne décolle pas. Alors sans doute qu'y a-t-il une ossature, une architecture intérieure au spectacle, mais moi je l'ai pas perçu et j'ai trouvé que c'était quand même un continuum. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, René Solis, si des personnages existent pleinement et sont très différents les uns les autres. Mais, comme dirait Fabienne Pascaud, so what? C'est pour la blague, je n'utilise jamais d'enclé sur cette antenne, bien sûr. Et après, voilà, c'est un peu ce que je me suis dit. J'ai perdu le spectacle en cours de route, où il m'a perdu, plus exactement. J'avais plus ou moins d'intérêt par des figures qui surgissaient. La performance de comédienne, bon, c'est surtout à elle que ça fait plaisir, j'imagine, plus qu'au spectateur. Je pense que c'est un peu normal de pouvoir être capable de jouer ça. Enfin, quand on choisit ce métier, hein, c'est quelque chose qui est assez valorisant, me semble-t-il, qu'elle fait très bien. Mais ça m'intéresse pas plus de voir une performance et comme l'écriture. Et volontairement une écriture, on va dire faible, mais c'est pas au sens, c'est pas péjoratif.
Ah, je veux vous dire, l'avez
dit,
hein.
Non, mais une écriture du quotidien. C'est pas une écriture stylisée. C'est une écriture du quotidien. Et du coup, ça manque quand même d'aspérité. Ça fait quand même pas loin d'une heure et quart. Et j'avais vraiment un problème de rythme interne. Philippe Chevillé.
Ben c'est ça le problème du quotidien, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsque, par exemple, elle fait le prof de gym qui rassemble tout, c'est très vrai, c'est très juste et ça donne une espèce de force à ce moment-là. Mais bien souvent, les bribes qu'on entend sont pas suffisamment fortes, sont pas suffisamment incisives. Et encore une fois, si c'était juste, on la voyait faire une démonstration des personnages comme ça, mais c'est un spectacle. Et du coup, le spectacle qui dure 1h15, il faut qu'il ait une ossature, une tenue. Mmh. Elle peut tenir cette ligne du parler quotidien un peu plat, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui tienne. C'est pour ça que ça se dilue un peu. Et il y a des spectacles de comiques, je m'excuse, mais à une époque, Valérie Lemercier, quand elle faisait des spectacles, c'était d'une violence inouïe, et c'était bien plus corrosif, tout en étant dans les codes du rire. Donc c'est pour ça que, bon, finalement, on est assez d'accord. Moi, en tout cas avec peut-être que Fabienne est un peu plus sévère que nous, mais c'est vrai que ce spectacle manque de quelque chose et bon, il m'a pas fait énormément rire.
Alors voilà. Je suis pas sûr que les Siadoches s'inscrivent ou veuillent s'inscrire dans le répertoire comique du seul en scène, hein, parce que
ah non,
je pense que son projet
quand
même
plus ambitieux.
Non, mais oui. Alors moi je suis les intentions.
Prétentieux.
Alors ça je ne sais pas. Moi les intentions du spectacle j'y adhère tout à fait. Je trouve le projet beau, intéressant. Son résultat ne me convainc pas. Voilà. Beaucoup. Voilà. Pour résumer un tout petit peu mon propos, vous pointez de la prétention, mais ça c'est.
Si, c'est peut-être une
l'ambition,
radiographie
c'est
de la
bien.
France aujourd'hui, en 2017, non, après tout.
L'ambition, c'est bien.
Oui, quand on a les moyens.
Bon.
De l'ambition.
C'était le mot de la fin concernant ce spectacle de Lydie Siadoche dont nous parlions. Un album qui se donne jusqu'au 5 novembre au Théâtre du Rond-Point. Y a-t-il d'autres dates après? Peut-être pas, parce que le spectacle a beaucoup tourné. Et sinon, Aïssatou Ndoye m'aurait donné les dates d'autres dates. Donc, il n'y en a pas. Aïssatou, vous me le confirmez. Jusqu'au 5 novembre, donc au Rond-Point. Avant de conclure le jeu de la dispute, en commençant par un rappel du jeu de vendredi soir, rappel de la question par Grégoire Di Fiore.
Quel est le nom de l'œuvre censurée par la FIAC au début du mois en raison de sa connotation sexuelle?
Et la réponse était
Le Domesticator.
De l'atelier Van... Non, c'est... Quel est l'artiste? Vous ne l'avez pas noté ici?
Non.
C'est pas l'atelier Van Lieshout qui faisait ça? Bon, à vérifier, ce sera l'objet d'un autre jeu peut-être. Ce soir, des invitations pour une exposition, celle qui s'intitule « Étrangers résidents », la collection Marine Karmitz. C'est à la Maison Rouge à Paris, à voir jusqu'au 21 janvier. Nous en parlerons bientôt dans la dispute d'ailleurs. Quelle est la question, Grégoire?
Quel réalisateur fut condamné à verser 180 000 euros à MK2 pour manquement à ses obligations?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez réécouter ces émissions et surtout vous abonner au podcast de la dispute. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain, postez sur la page Facebook La Dispute FC dès maintenant, à moins que vous n'attendiez le direct à 19h pour commenter via le compte Twitter Dispute FC. Demain, 19h, donc émission musique en compagnie d'Anna Segalevitch, Marie Audroux et Emmanuel Dupuis. À notre affiche Don Carlos, l'opéra de Verdi dirigé par Philippe Jordan, mise en scène Christophe Warlikowski. Les Diabelli Variations, c'est le titre est en anglais, c'est comme ça, les œuvres de Beethoven interprétées par le pianiste Filippo Gorini. Et puis War Requiem, l'opéra de Benjamin Britten, dirigé par Daniele Ristioni, mise en scène Yoshi Oida, c'est à l'Opéra de Lyon.